La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes au début des années 1970 dans un des ouvrages qu'il consacre aux techniques de management. Reinhard Höhn, juriste et historien allemand qui fut membre du parti nazi, écrit « Les décisions ne sont plus prises par un seul homme ou un groupe d'hommes à la tête de l'entreprise, mais dans chaque cas par les collaborateurs au niveau qui les caractérise. Les collaborateurs ne sont plus dirigés par des ordres précis donnés par leurs supérieurs. Au contraire, ils disposent d'un champ d'action bien défini où ils sont libres d'agir et de décider de manière autonome grâce aux compétences précises qui leur sont dévolues. La responsabilité n'est donc plus concentrée sur la seule et unique direction. Une partie de cette responsabilité est en effet transférée vers le niveau qui a pris en charge l'action. » Fin de citation. Reinhard Höhn a fait partie avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale de l'élite intellectuelle, les spécialistes, les savants du Troisième Reich chargés de penser l'administration du territoire. Ses idées, il les prodiguait donc déjà au temps du Führer et il va poursuivre après sa chute. Le management du nazisme à nos jours, c'est ce que nous allons tenter de comprendre.
La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Dass wir nicht sind Stadt und Land, nicht sind Arbeiter, Angestellte, Handwerker, Bauern, Studenten, Bürger, nicht sind irgendwelche Anhänger irgendwelcher Weltanschauungen, sondern dass wir sind Angehörige eines Volkes.
Extrait du discours d'Hitler à propos du 1er mai en 1935. Nous ne sommes pas des ouvriers, des employés, des artisans, des paysans, des étudiants. Nous ne sommes pas de quelconques adeptes d'une quelconque conception du monde, mais nous sommes membres d'un même peuple. Alors pour évoquer le management sur le nazisme et peut-être ses échos jusqu'à nos jours, Johann Chapoutot est avec nous. Bonjour Johann Chapoutot.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Libre d'obéir, le management du nazisme à nos jours » qui est paru chez Gallimard. Alors, de jeunes juristes, des universitaires, des hauts fonctionnaires du Troisième Reich ont beaucoup réfléchi aux questions managériales. Il faut dire que l'entreprise nazie a des besoins gigantesques en termes de ressources et d'organisation du travail.
Ah oui, ce sont des besoins productifs d'abord et avant tout, puisque à partir de 1933, l'Allemagne nazie se lance dans une politique de réarmement inédite, bien supérieure à celle de Guillaume II avant la Première Guerre mondiale, d'une part, et d'autre part, le Reich se dilatant territorialement à partir de 1936, 38, 39, il y a des besoins d'adaptation des structures de l'État, des structures administratives au nouveau territoire qui ne cesse de croître. Et tout cela dans un contexte de réduction de ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources humaines, qui est une expression assez atroce quand on y songe, et que les nazis appelaient plus franchement matériel humain, puisque à partir de 1939, ce sont quand même 18 millions d'hommes qui sont sous les drapeaux, donc autant d'ouvriers et d'administrateurs en moins.
Et en ce qui concerne l'élite civile dont on va parler, qui va donc penser l'administration de ce Grand Reich, elle a été formée par la République de Weimar.
Oui, alors, disons qu'elle a été formée dans des universités qui ont été ouvertes largement par la République de Weimar dans une politique de démocratisation de l'accès au savoir, mais il faut voir que les structures enseignantes, hein, les mandarins, les professeurs qui tenaient l'université étaient des mandarins d'ancien régime, puisqu'il n'y a pas eu de spoil system en 1918-1919, et ce sont les professeurs formés sous le Kaiserreich, sous l'Empire, qui sont restés en poste et qui ont enseigné à leurs étudiants, singulièrement aux juristes, le mépris de la constitution de Weimar et le mépris de cette république qui était à leurs yeux anti-allemande.
Alors avant d'évoquer le travail, la pensée de Reinhard Höhn, il y a le cas de l'un de ses cadres qui va participer activement à la réflexion sur le management. Il se nomme Wilhelm Stuckart. Il a une trentaine d'années en 1933 quand le parti national socialiste des travailleurs travailleurs allemands. Donc le parti nazi arrive au pouvoir. Quel est son profil ?
Wilhelm Stuckart, c'est un homme assez emblématique comme Reinhard Heine, hein, de cette élite à la fois intellectuelle et fonctionnelle du parti nazi du Troisième Reich. Ce sont des intellectuels, comme vous l'avez dit en introduction, mais ce sont aussi des intellectuels d'action parce que ils sont à la fois universitaires et en poste de responsabilité au sein de la SS et pour ce qui est de Reinhard Heine, du SD, c'est-à-dire du cerveau de la SS, hein, du service de renseignement de cette organisation. Et Stuckart, c'est un nazi radical qui devient secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, puis au ministère de la Justice, et à ce titre, il est le rédacteur des lois de Nuremberg en 1935, après avoir été le rédacteur des lois d'euthanasie, de stérilisation obligatoire en 1933. Et c'est un homme qui, par ailleurs, ensuite est chargé de l'adaptation juridique des territoires annexés au Reich.
Et il va, lui aussi, participer à la réflexion pour pallier le manque d'effectifs, donc dû au grand nombre d'hommes partis, vous lisiez, sous les drapeaux. Qu'est-ce qu'il propose, Stuckart ?
Alors, Wilhelm Stuckart, comme Reinhard Heine et comme Werner Best, sont trois jeunes gens très ambitieux, des hauts fonctionnaires, surdiplômés, qui arment véritablement, hein, intellectuellement et en pratique, les structures du parti nazi et puis du Troisième Reich. Et à eux trois, ils vont fonder en 1941, c'est-à-dire au moment de l'expansion maximale de l'Empire, avec l'attaque contre l'URSS, ils vont fonder une revue qui s'appelle Empire, Ordre Racial et Espace Vital, dans laquelle ils vont développer les uns et les autres des réflexions très concrètes, hein, parfois, sur la conduite des affaires, ce qu'on appelle la Geschäftsführung en allemand, c'est-à-dire la manière de peupler les structures d'administration de cet empire en extension permanente, d'une part, et d'autre part, concrètement, au jour le jour, de mener la direction d'un bureau.
Et dans cette administration du Grand Reich, il y a la notion de centralisation et de décentralisation, c'est très très important.
Oui, alors ces juristes-là fondent leur analyse sur une tradition allemande, à leurs yeux, qui est celle en gros du Saint-Empire romain germanique, qui est celle d'une très grande subsidiarité, à laquelle on est beaucoup plus familier en Belgique, hein, qu'en France. Hein. Nous sommes un état très jacobin ici, outre Quiévrain. Cette tradition-là a été heurtée de plein fouet, à leurs yeux, par l'imitation précisément du modèle français. Sous Louis XIV, si prestigieux en Allemagne, ouais, et surtout sous Napoléon. Et cette importation d'un modèle d'État importé de la France, hérité d'ailleurs de l'Empire romain, de l'Église catholique, est une importation allogène, c'est-à-dire quelque chose de... c'est une aliénation à quelque chose d'étranger qui n'est pas acceptable. Il faut revenir, selon eux, à une tradition purement germanique qui remonte non seulement au Saint-Empire, mais aussi, selon eux également, aux Germains des forêts, hein, qui étaient libres et qui se gouvernaient eux-mêmes, c'est-à-dire une tradition de l'initiative à la base et de la plus grande liberté possible de l'agent qui est sur le terrain.
Alors on reviendra bien sûr à cette notion de liberté qui est très importante. Il y a également la simplification administrative qui est au programme du Reich et du Führer.
Oui, alors, c'est effectivement un double mouvement. D'une part, il faut laisser à l'agent sur le terrain la plus grande liberté, la plus grande flexibilité, comme ils disent déjà, hein, mais dans le cadre d'une organisation parfaitement conforme et qui doit être effectivement dictée par le sommet. Et de ce point de vue-là, il est intéressant de remarquer que la période nazie de l'histoire allemande, de 1933-1945, a marqué la période par excellence de la centralisation en Allemagne. Ce n'était pas le cas avant 1933, il n'y avait pas de police allemande, par exemple, en 1933, et ce n'est plus le cas après 1945-1949, où, tant en RDA qu'en RFA, on revient à une organisation très largement décentralisée.
Alors, le Reich, on l'a dit, s'étend, il faut adapter les structures de l'État, il faut faire plus avec autant, sinon avec moins. Les penseurs du Reich vont se poser la question des meilleurs outils pour parvenir à ce résultat. L'État est-il l'outil le plus adapté ? C'est ce que nous allons voir avec vous, Johann Chapoutot.
On s'est rendu compte effectivement que tout ce qui était qualité de vie au travail et l'amélioration de la qualité de vie au travail, c'était aussi une grosse prévention des maladies en fait liées au stress, comme le burn-out par exemple. Du coup, cette fonction de chief happiness officer, elle prend tout son sens là-dedans. C'est beaucoup de prévention et c'est en fait aussi faire du salarié un véritable ambassadeur de la marque. C'est-à-dire que en améliorant la qualité de vie au travail du salarié, on le rend plus productif. On fait en sorte en fait qu'il soit beaucoup plus heureux de se lever chaque matin. Et en fait, le fait d'être beaucoup plus heureux de se lever chaque matin pour aller travailler fait qu'il devient un ambassadeur parfait pour sa marque. Quand mes salariés m'appellent la maman, mamie, tata, la licorne ou la porteuse d'amour, je sais que ça marche.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Voilà, Marie Carbonnet, qui est Chief Happiness Officer au sein d'une agence digitale, donc les moyens, les outils de management aujourd'hui. On va se poser la question avec vous tout à l'heure, Johan Chapoutot, sur ces échos peut-être du management des nazis avec notre époque. Alors pour les nazis, la jeunesse de l'État a été une catastrophe, vous l'avez dit, pour le peuple germanique. Et l'existence de l'État et l'action de l'État sont remis en question, ils sont néfastes pour les nazis.
Oui, alors il faut peut-être partir d'un paradoxe apparent, puisque généralement, bon, on a appris à l'école que le nazisme était un totalitarisme, comme le fascisme, comme le stalinisme, etc. Et que on a appris également que l'État était un critère fondamental de cette organisation, de ce type de régime. Alors ça marche très bien, effectivement, dans le cas fasciste et dans le cas stalinien, où il y a un véritable culte de l'État. Dans le cas nazi, pas du tout. Et c'est indiqué par des discours d'Hitler lui-même, qui vilipende l'État, et qui le répudie même comme structure optimale ou pertinente d'organisation de la communauté germanique. La communauté germanique, comme nous l'avons dit précédemment, c'est une communauté originellement libre, c'est la fameuse liberté germanique, la liberté des forêts, l'organisation en clan, l'organisation en tribu, une forme de démocratie primitive, si vous voulez, qui se passe bien entendu de l'État, puisque l'État, aux yeux des nazis, c'est une création romaine tardive, c'est-à-dire juive, dès en gros 3e ou 6e siècle de notre ère, et c'est une structure qui a été inventée donc par des ennemis de la race, par les juifs, et qui a été ensuite violemment importée en Allemagne, dans l'espace germanique, non seulement par l'évangélisation catholique, mais ensuite également par les guerres menées par les Français sous Louis XIV et sous Napoléon. Donc c'est une structure allogène, étrangère, néfaste, nocive pour la santé de la race germanique. Donc il y a une volonté idéologique très claire de détruire l'État, ça c'est parfaitement thématisé par des juristes et des idéologues, mais il y a aussi une pratique, dès 1933, de destruction systématique d'un État qui est littéralement pulvérisé. Tout simplement parce que, d'une part, il est concurrencé par le parti, nous le savons très bien, mais aussi par une myriade d'institutions ad hoc, d'instances ad hoc, qui sont créées comme cela à partir de mars 1933, et qui sont autant d'agences, des agences qui se définissent par un budget, un projet, une mission, et qui doivent remplir des fonctions auparavant dévolues à l'État, et qui ont cet avantage éminent aux yeux des nazis, d'être souples, flexibles, dynamiques, agiles, agressives, pleines d'initiatives, enfin bref, tous ces mots-là que nous retrouvons, bien entendu, aujourd'hui dans non seulement le management, mais aussi le new public management, pour les institutions publiques, et qui présentent également l'avantage de n'être pas pérenne, puisque l'État, hélas, demeure, et est inutile pour cette raison-là aussi, alors que les agences, elles, sont censées disparaître au moment où leur mission est remplie.
C'est en ça que les historiens caractérisent le Troisième Reich de polycratie, c'est ça ?
Oui, absolument. Alors, les historiens dès les années 1950 ont bien vu que le fonctionnement concret du régime nazi ne correspondait pas du tout à l'image que les nazis voulaient en donner eux-mêmes. Le topos de l'efficacité allemande, les colonnes géométriques en marche filmées par Riefenstahl, etc. En fait, ils se sont rendus compte que c'était un chaos, un maelstrom permanent. Mais les historiens ne sont pas allés assez loin, en fond, parce qu'ils ont décrit la chose sous la forme d'un paradoxe. Tiens, finalement, c'est beaucoup plus désorganisé que ce qu'on pensait. Sauf que cette désorganisation-là a été théorisée et pensée en temps réel par des juristes comme Reinhard Heine, qui estimait qu'il y avait là un sein darwinisme administratif à se laisser, si vous voulez, s'affronter des agences qui avaient la même juridiction, le même domaine de compétences, pour qu'à chaque fois, ce soit la solution la plus radicale qui l'emporte dans ce combat entre les institutions. Et par ailleurs, ces gens-là voulaient très fermement et obtenaient déjà la destruction de l'État.
Alors vous évoquiez donc l'exemple de Louis XIV et de la France, le contre-exemple plus exactement. Reinhard Heine, lui, va aussi aller lorgner du côté de la Renaissance italienne avec ses souverainetés, ses princes très puissants.
Oui, alors pour lui, c'est un juriste de droit public, et comme les juristes de droit public, c'est quelqu'un de cultivé, et c'est quelqu'un qui aime la philosophie, l'histoire, la sociologie, et qui voit dans la Renaissance italienne, et puis ensuite, surtout dans l'âge des princes, initié par la monarchie absolue à la France, il voit l'avènement désastreux de l'État, du prince souverain de l'époque moderne, qui confisque à son profit le pouvoir de décision. Alors ça, c'est assez étonnant de lire les juristes nazis qui s'échinent à dire que le Troisième Reich n'est pas une dictature, contrairement à la France de Louis XIV, par exemple, ou à la République consulaire de Napoléon. Le Troisième Reich n'est pas une dictature, dans la mesure où le Führer n'est pas un prince, n'est pas un despote, n'est pas un tyran de l'époque moderne. C'est au contraire celui qui est venu au pouvoir parce qu'il avait le mieux compris, hein, de nous tous, les lois de la nature et de l'histoire. Autrement dit, en obéissant au Führer, eh bien, le Genosse, le Volksgenosse, le camarade de race, le compagnon ethnique, eh bien, obéit à lui-même et fait ce qui est bon, sain et profitable pour lui.
Alors, avec Reinhard Heine, c'est la question de la liberté que se pose également dans l'Allemagne nazie, celle du consentement des peuples. Avec l'État, le peuple est soumis, c'est ça ?
Alors oui, pour les juristes nazis, c'est très clair, l'État est despotique. Hein. L'État est despotique, il a été inventé pour ça d'ailleurs, puisque l'État, aux yeux des juristes nazis, est la création d'un peuple, les juifs en l'occurrence, qui ne savent pas se gouverner eux-mêmes, parce qu'ils sont malades, à la fois ce sont des malades physiques, puisqu'ils sont mélangés racialement, et des malades mentaux, puisqu'ils sont malades physiques. Donc ils ne savent pas se gouverner eux-mêmes, donc ils ont inventé la loi, le décalogue, le deutéronome, etc. etc. Les juifs sont censés être le peuple de la loi. Et ils ont inventé l'État qu'ils ont ensuite imposé au monde, finalement, via l'Empire romain et le modèle de l'Empire romain, et ensuite via la France, qui est ce modèle déplorable et désastreux. Donc très clairement, l'État est oppressif par nature, et en détruisant l'État, on crée et en créant des agences, on revient à la fluidité, à la ductilité et à la liberté de mouvement germanique.
Alors, recours également à Darwin pour expliquer donc les bienfaits de l'administration du Troisième Reich, c'est-à-dire qu'on parle ici de sélection naturelle.
Oui, alors, c'est un Darwin qui n'est pas darwinien, au fond, mais qui est social-darwinien. Darwin a créé des concepts, nous le savons, pour expliquer le devenir de la nature, et notamment la répartition et la subsistance des espèces. Donc, des concepts comme le combat pour la vie, la sélection naturelle, etc., la survie du meilleur. Ces concepts-là ont été ensuite traduits dans la langue politique et sociale par les darwinistes sociaux, qui voulaient, au fond, justifier le capitalisme et le colonialisme, en estimant que l'homme blanc riche était le roi de la jungle, et c'est pour cela que, par sa vertu naturelle, ses qualités naturelles, c'est pour cela qu'il trônait au sommet de la création. Les nazis sont les héritiers, hein, tout simplement, de ce darwinisme social dont ils sont parmi les représentants les plus vigoureux, on va dire.
Alors face à l'aliénation et la dénaturation que provoque l'État, que proposent encore les penseurs du Troisième Reich, c'est ce que nous allons voir avec Johann Chapoutot.
Une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise. Après tout, qui mieux que le salarié sait comment faire le travail du salarié ? Partant de ce principe, exit les procédures, les contrôles, la surveillance et la hiérarchie qui les entretient. Les dirigeants et les managers n'ont plus rien d'autre à faire que de se mettre au service des salariés. Un peu comme un jardinier se met au service de ses plantes. Bon, évidemment, pour que cette absence de hiérarchie ne devienne pas l'anarchie au bout de 10 minutes, ça demande une vision d'entreprise exaltante, que chacun s'approprie, quelques règles de savoir-vivre, et aussi de la part du dirigeant, un peu de travail sur son ego. Voilà ce qu'est une entreprise libérée.
Un jour dans l'histoire, sur la première, Laurent de Hausset.
Voilà, vidéo d'une entreprise de biscuits faisant la promotion du management participatif. Qu'est-ce que ça vous évoque, Johann Chapoutot ?
Ça m'évoque des souvenirs liés à l'Allemagne des années 30, parce que cette exaltation de la responsabilité, de la marge d'initiative, et de la performance aussi, hein, si je reviens à votre capsule audio précédente, cette exaltation-là, elle est manifeste sous le Troisième Reich, là aussi de manière contre-intuitive, parce que, bon, déjà, il est surprenant d'imaginer que les nazis s'intéressaient au management, ce qu'ils appelaient la Menschenführung, hein, dans un mot qui germanise le terme de management, parce qu'on n'aime pas les termes étrangers, hein, d'origine britannique ou française ou italienne, puisque management c'est du français et de l'italien, ouais, à la base. Donc ils s'intéressent à la Menschenführung, et par ailleurs, dans la mesure où on accepte cela, qu'ils se sont intéressés à ça, on imagine que ça va être parfaitement vertical, géométrique, oppressif et totalement illibéral. Et en fait, c'est tout le contraire, parce que les nazis se sont bien rendus compte que pour produire aussi massivement et pour motiver, hein, les gens à la production et au gouvernement d'un Reich aussi immense, il fallait précisément les motiver, il fallait obtenir leur consentement ou leur adhésion. Et cela, ça ne se fait pas par la contrainte, ça se fait par la gratification, la gratification symbolique et la gratification matérielle. La gratification matérielle Les historiens comme Frank Bayer, Götz Ali ont bien montré que le Troisième Reich n'en était pas avare aux yeux, enfin, à l'égard des Allemands considérés comme de bonne race, hein, puisque la politique sociale, la politique fiscale est très avantageuse. Et pour ce qui est de la gratification symbolique, elle est permanente. Hein. Vous êtes le peuple élu, vous êtes le sel de la terre, et puis vous êtes libre. Vous êtes libre et vous participez librement à la plus grande épopée de l'histoire de l'humanité.
Et au sein des entreprises, il y a aussi des gratifications, c'est-à-dire des promotions, et puis un environnement qui est pensé pour le bien-être du travailleur.
Oui, c'est étonnamment moderne. On se rend compte que au ministère du Travail, comme au DAF, au syndicat unique qui est imposé à partir de 1933, vous avez des réflexions sur l'esthétique, sur l'ergonomie des lieux de travail. Et vous avez, dépendant également du DAF, du syndicat corporatiste unique, vous avez ce grand comité d'entreprise à l'échelle du Reich qui s'appelle la Kraft durch Freude, la force par la joie, qui s'intéresse aux loisirs dont on va gratifier les employés et les ouvriers. Alors ça peut être des sorties au théâtre, au cinéma, ça peut être des randonnées dans les bois de Bavière, mais ça peut être aussi des croisières sur des navires qui sont affrétés à cet effet, qui amènent par ailleurs parfois aussi les vacanciers dans des centres de vacances qui sont construits et administrés par l'organisation La Force par la Joie, hein, Kraft durch Freude. Je pense notamment au gigantesque complexe de Prora Rügen, hein, sur l'île de Rügen, 6000 mètres de long, imaginez un hôtel de 6 km de long avec 20 000 lits.
Alors, ce souci du confort, du bien-être est réservé, bien sûr, aux membres de la communauté du peuple germain. Il n'empêche que le Troisième Reich, en 1945, compte 15 millions de travailleurs étrangers. Alors, comment sont-ils considérés ?
Alors, il va de soi que ces normes-là ne valent que pour les internes, hein, pour ceux qui sont considérés comme participants à la race germanique, à l'exclusion donc des inutiles sociaux, des opposants politiques et évidemment des allogènes raciaux, dont les juifs. Pour ce qui est des 15 millions de travailleurs étrangers présents dans le Reich en 1945. Au passage, on voit aussi l'absurdité de la politique nazie, hein, qui voulait purifier l'espèce germanique et qui a marqué la période de plus grande immigration, forcée certes, de plus grande immigration